Alors aujourd'hui, c'est un dimanche en quelque sorte de rentrée pour nous, un dimanche de rentrée d'église. Les activités se remettent en place à partir d'aujourd'hui, en grande partie, notamment l'enseignement des enfants, on les a vu monter, même si tout cet été, il y a eu quelque chose de préparé pour eux aussi. Les groupes de maison vont reprendre, le catéchisme pour les ados va suivre. Nous aurons aussi un repas fraternel à la suite de ce culte. Et cet après-midi, nous aurons une discussion communautaire autour des grands projets pour cette année. C'est la rentrée. Les activités reprennent, les œuvres reprennent. Et c'est justement de ça que j'ai eu à cœur de vous parler ce matin. Comment être des disciples à l'œuvre ? Et pour ça, j'aimerais vous inviter à lire ensemble un texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 12 à 16. Philippiens, chapitre 2, les versets 12 à 16. « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. » Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Quand je lis ce texte, j'aime bien regarder les visages après. Certains s'inquiètent un peu, peut-être. C'est vrai qu'un texte qui parle d'obéissance, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Eh bien, je vais vous rassurer d'entrée, pour moi, ce texte ne parle absolument pas d'obéir. Et là, je vois les visages un peu inquiets qui deviennent un peu perplexes parce que oui, qu'est-ce que je suis en train de raconter là ? Pourtant, je suis en train de vous dire que ça ne parle pas d'obéir. Qu'est-ce qui est marqué ? Vous êtes obéissant. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Si ça, c'est pas obéir, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Alors, selon le Larousse, voici la définition du verbe « obéir ». Se soumettre à la volonté de quelqu'un. Eh bien, je vous avoue que j'ai longtemps cru que la vie chrétienne, la vie de disciple du Christ, c'était ça. Se soumettre à la volonté de Dieu. Obéir. Je l'ai longtemps cru, parce qu'aussi on me l'a longtemps enseigné, en prédication, en groupe de jeunes, dans les groupes bibliques universitaires, en études bibliques, en groupe de maison. J'ai toujours entendu dire que la vie chrétienne, c'est ça, se soumettre à la volonté de Dieu, c'est-à-dire obéir. Je l'ai longtemps cru et j'ai longtemps essayé de le faire, avec parfois quelques succès, la plupart du temps non, des échecs qui produisaient des remords, de la honte, un très grand sentiment de culpabilité, d'impuissance. Et pourtant, même dans mes prières, cette préoccupation revenait souvent. « Seigneur, je veux faire ta volonté, aide-moi ». Pourquoi j'y arrive pas ? Culpabilité, motivation qui baisse, vie chrétienne en dents de scie, crainte, voire même procrastination. Et les quelques victoires dans ma vie n'y changeaient pas grand-chose. Mais j'ai eu la chance de recevoir un enseignement différent qui m'a éclairé sur ce sujet. J'ai eu la grâce de pouvoir lire ce qu'écrivaient d'autres serviteurs de Dieu à ce sujet. Dieu m'a libéré, je l'avoue. En me montrant que je me trompais. Et j'ai compris alors que beaucoup de croyants, peut-être aussi, se trompent dans ce domaine. Et du coup, beaucoup de disciples du Christ vivent mal leur vie chrétienne. La clé dans ce texte, c'est un seul mot. Le vouloir. Dieu lui-même agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire. Si Dieu voulait des serviteurs qui obéissent, qui se soumettent simplement à sa volonté, il produirait juste en nous le faire. C'est vrai, pour obéir à un ordre, nous n'avons pas besoin de vouloir cet ordre. Notre volonté n'est pas mise en action, elle n'est pas concernée. Dans l'obéissance, seul compte l'œuvre réalisée et seul compte la volonté de celui qui commande. Ce n'est pas notre volonté, c'est celle d'un autre. Nous suivons simplement les ordres, mais ce n'est pas que le faire que Dieu veut produire en nous, c'est également le vouloir. Ce n'est pas l'œuvre qui compte pour Dieu, c'est le fait que nous participions à l'œuvre de Dieu, que nous le rejoignions dans son œuvre, dans une volonté commune avec lui. Et ça, ça change tout. Parce que comment appelle-t-on le fait d'œuvrer avec quelqu'un d'autre dans une volonté commune, dans un projet commun ? Ce n'est pas de l'obéissance, ça. C'est la définition même de la collaboration. Et même dans le Larousse, voici le sens du mot collaboration. Participer avec un ou plusieurs autres à une œuvre commune. La volonté profonde de Dieu, ce n'est pas de se créer un peuple de serviteurs obéissants, mais c'est de se créer une famille dont tous les membres devenus adultes dans leur foi soient animés par une volonté commune dans un but commun. Et cette volonté, bien sûr, tout comme le reste, c'est en Dieu qu'elle se trouve. Elle nous vient de Dieu par son esprit pour devenir aussi la nôtre. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, mais Jeff, dans la Bible, il y a quand même beaucoup de passages, des chapitres, des livres entiers de la Bible qui parlent d'obéir à la volonté de Dieu. Donc c'est que c'est important. C'est vrai. Mais pour comprendre ces passages, il va falloir qu'on parle un petit peu ensemble ce matin du cheminement d'un disciple au cours de sa vie. En effet, dans la vie chrétienne, tout le monde commence forcément par rencontrer Dieu et par le découvrir. Et à ce stade-là, on ne connaît rien sur le Seigneur, rien sur sa volonté, rien sur qui il est. Il faut d'abord recevoir, apprendre et obéir comme des enfants dans la foi que nous sommes. Pour être éduqué, un enfant est obligé d'apprendre, notamment ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Mais au début, ce n'est pas la volonté de l'enfant. Il doit apprendre avant de pouvoir comprendre. Il obéit sans forcément vouloir. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Et vous voulez des exemples bibliques ? Eh bien, regardons ensemble le livre des Proverbes. Un livre entier de la Bible qui enseigne ce qui est bien et ce qui est mal, qui dit constamment « faites ceci, mais pas cela ». À qui s'adresse ce livre ? Eh bien, c'est écrit dans les premiers versets du livre des Proverbes. Les Proverbes ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Ces Proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. Et un peu plus loin, les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère. Le livre des Proverbes apprend aux enfants dans la foi à découvrir la volonté de Dieu en apprenant et en obéissant. Un autre exemple, cette fois dans le Nouveau Testament, c'est la première épître de Paul aux Corinthiens. C'est une épître où Paul, peut-être vous n'avez pas fait attention, mais il passe son temps à dire « faites ceci, pas cela, je vous conseille ceci, honte à ceux qui font ça, comment pouvez-vous accepter tel ou tel comportement, pourquoi faites-vous ça ?» Mais à qui s'adresse Paul dans cette épître ? Qui sont les membres de l'église de Corinthe ? Eh bien voici ce que Paul nous en dit en 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2. « En réalité, frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à des petits-enfants dans la foi au Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait, et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors, et même aujourd'hui, vous êtes encore incapables de la supporter. » Les Corinthiens étaient pour la plupart des personnes jeunes dans la foi, très jeunes. qui avaient rencontré le Seigneur depuis peu, quelques années tout au plus, entre le passage de Paul pour la première fois dans la ville de Corinthe et cette épître, il s'écoule peut-être 5 ans. C'est peu. Les Corinthiens doivent donc encore recevoir les bases de la foi, ce que Paul appelle le lait spirituel. Ils en sont encore à découvrir Dieu et sa volonté. Ils apprennent et ils obéissent. Et il n'y a aucune honte à en être là. Tous ceux qui sont des disciples du Seigneur ont commencé par cette étape. Découvrir, apprendre et obéir. Cette période de l'enfance dans la foi est bonne. Elle est belle. Mais elle n'est pas faite pour durer toujours. Parce que le projet de Dieu n'est pas de faire de nous des enfants obéissants à qui le Père transmet simplement des ordres. Mais Dieu a pour projet de conduire ses disciples vers la maturité, à l'état d'adulte dans la foi, produire en eux le faire, mais aussi le vouloir, que la volonté des disciples rejoigne celle du Maître et qu'alors les serviteurs obéissants deviennent des équipiers, des collaborateurs de Dieu, tous animés par une volonté commune, comme l'apôtre Paul l'exprime en Philippiens chapitre 3. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Ça veut dire qu'il faut encore cheminer un petit peu. Seulement au point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Le but de Dieu, c'est de nous faire grandir, pour ne pas faire que recevoir, mais que nous puissions en venir à observer quelle est l'œuvre du Maître pour la comprendre et pour l'y rejoindre volontairement, ensemble et avec joie. Tous les croyants n'en sont pas au même stade de leur vie chrétienne. Mais est-ce que les uns valent plus que les autres? Eh bien non. Parce que quel que soit notre cheminement, notre stade de maturité dans la foi, nous n'avons aucun mérite. Parce que nous avons tout reçu gratuitement de Dieu. Celui qui rencontre le Seigneur, c'est à Dieu qu'il le doit. Le Seigneur est venu le rencontrer, se révéler à lui. Celui qui grandit dans la foi, patiemment, progressivement, il le reçoit également dans la parole de Dieu, par l'apport de ses frères et sœurs en Christ, mais surtout par le travail du Saint-Esprit en lui. Celui qui en vient dans sa vie à vivre en tant que disciple du Christ, à s'investir, à encourager, à témoigner, à enseigner, celui-là aussi l'a reçu. Il reçoit sa connaissance de la parole de Dieu, de l'enseignement des autres aussi. Il reçoit la compréhension du Saint-Esprit qui va éclairer son intelligence. Il reçoit les dons qu'il met en œuvre du même Esprit de Dieu. Et il reçoit l'appel du Maître à venir le rejoindre dans son œuvre. Tout est grâce, tout est cadeau gratuit. Aucun disciple du Christ ne doit tomber dans l'orgueil parce que tout simplement tout est reçu. Nous ne méritons rien. Et c'est ce qui nous protège de l'orgueil. C'est aussi ce qui nous libère, en quelque sorte. Ça nous libère du manque d'estime de nous-mêmes. Parfois on peut le ressentir, se dire « Oui, moi je suis un enfant dans la foi, je regarde d'autres plus adultes qui prêchent, qui enseignent, qui témoignent, et moi je n'y arrive pas. » Il n'y a ni honte, ni culpabilité à avoir, parce que je suis simplement ce que j'ai reçu de Dieu. Un enfant dans la foi chemine avec ce que Dieu lui donne. Un adulte dans la foi a simplement peut-être déjà reçu ces choses par le passé, même s'il continue ce cheminement qui n'a pas de fin. Je ne peux pas grandir si je ne reçois pas. D'où l'importance. L'importance de lire la parole de Dieu, de passer du temps dans la prière, de recevoir l'enseignement de mes frères et sœurs en Christ, d'être à l'écoute du Saint-Esprit en moi. Toutes ces choses, c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui les fait, c'est Dieu qui les produit, c'est Dieu qui les donne. Même lorsque je vous enseigne, comme ce matin, en tant que pasteur, je ne fais que rejoindre ce que Dieu produit en moi et ce qu'il veut produire pour vous. Je ne le fais pas pour moi-même, je ne le fais pas par moi-même, je le fais avec
la connaissance et la compréhension que j'ai reçue de Dieu, que j'ai reçue de mes frères et sœurs plus adultes et plus mûrs que moi. Je le fais aussi avec les dons que Dieu produit en moi-même. Et je ne peux servir que dans cette limite, avec la part que Dieu me donne. Je ne peux pas aller au-delà. Pour le reste, dans beaucoup d'autres domaines, j'ai moi aussi besoin de mes frères et sœurs que le Seigneur me donne. J'ai moi aussi besoin de ce que le Seigneur vous donne. J'ai besoin de ce qu'il fait en vous. J'ai besoin de ce en quoi il vous appelle à le rejoindre. Le but de Dieu pour nous, ce n'est pas l'obéissance des enfants, c'est la maturité des adultes. Et donc la collaboration des disciples qui rejoignent l'œuvre de leur maître. Et dans notre texte de Philippiens 2, Paul disait aux croyants, « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. » C'est bien, ce n'est pas mauvais, c'est une étape importante et nécessaire. C'est recevoir le salut et la connaissance de Dieu. Mais maintenant, Dieu a amené les Philippiens à une maturité plus grande. C'est pourquoi Paul peut aller plus loin avec eux. Faites donc maintenant fructifier votre salut. Faites-le avec crainte et respect. C'est vrai, parce que le maître n'est pas un collègue, ce n'est pas un pote, ce n'est pas un patron, c'est Dieu. Tout vient de lui. C'est une collaboration, mais pas à parts égales, pas une collaboration humaine où chacun amènerait un bout de lui-même pour produire quelque chose. Tout nous vient de Dieu. Mais ce n'est pas faire qu'obéir. Ici, c'est faire fructifier. C'est rejoindre l'œuvre du maître. C'est devenir ses collaborateurs. Paul invite les Philippiens, en tant qu'adultes dans la foi, à ne plus simplement obéir, mais à rejoindre le maître, à collaborer dans le faire avec le vouloir qui leur vient de Dieu. Et Paul peut alors leur dire, sans les culpabiliser, faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Parce que celui qui obéit peut se plaindre de sa charge, il peut aussi parfois râler, discuter, vu qu'il ne comprend pas la volonté, il ne fait que suivre une volonté sans la comprendre. Mais le collaborateur qui rejoint le maître avec la même volonté que celui-ci, le collaborateur ne se plaint pas, il ne discute pas, il veut ce que son maître veut, il rejoint ce que son maître fait. Et comme nous le dit Jésus dans la parabole des talents, ce serviteur entre alors dans un autre stade de sa vie chrétienne, il entre dans ce que le Christ appelle la joie de son maître. Une nouvelle année scolaire commence, les œuvres, les activités, notre Église a tout un tas de projets pour cette année, croyez-moi, on ne va pas s'ennuyer, mais notre but n'est pas et ne sera jamais d'empiler des activités. Notre but n'est pas de faire, ce n'est pas d'obéir. Non, nous voulons grandir ensemble, en maturité spirituelle. Nous voulons devenir ensemble des adultes dans la foi. Et avec ce que Dieu produit en nous, par reconnaissance, par amour envers lui, par respect pour lui, nous voulons discerner quelle est l'œuvre du Maître pour pouvoir l'y rejoindre et pour entrer dans sa joie. Alors que le Seigneur, en ce début d'année qui commence, que le Seigneur nous préserve de l'orgueil, qu'il nous préserve aussi de l'immobilisme, mais qu'il produise en nous la maturité pour enfin nous donner son vouloir et son faire conformément à son projet plein d'amour. Amen.